Bonjour frères et sœurs. C'était très bien ce qui a été dit. Je trouve que tout allait ensemble avec ce que j'ai à dire. Mais d'abord, pour vous parler, il va falloir d'abord que je fasse non pas du théâtre, c'est pas vraiment du théâtre, mais parler comme ça. Voilà. Je voudrais vous dire à genoux combien l'amour de Jésus est doux. Plus profond que le grand abîme, plus profond que le grand abîme. Ô vous les blessés du chemin, venez car il vous tend la main. Depuis longtemps il vous attire, depuis longtemps il vous attire. Excusez-moi de faire un peu ça, mais comme c'est le sujet de mon message, il fallait que je vous le dise à genoux. Je pourrais rester à genoux tout le temps. Mais je pourrais être à genoux tout le temps, mais bon, c'est dans l'esprit, hein, vous comprenez bien, c'est dans l'esprit. Voilà, c'est le titre de la méditation de ce matin, je voudrais vous dire à genoux. Vous avez remarqué, dans tout ce qui était dit, c'était dit à genoux. Quand Paul parle, c'est à genoux. Quand tous les frères et les sœurs qui viennent ici, ils sont à genoux dans l'esprit. Hein. Et j'ai eu envie de parler là-dessus. C'est un cantique, hein. C'est le cantique 651 dans les ailes de la foi. Par rapport à ce cantique, je me suis permis quand même une petite modification. C'est au lieu que ça soit plus profond que le grand abîme, c'est plus doux que je ne puis le dire. Hein? L'amour de Jésus est doux, c'est pas plus profond que le grand abîme, dans le 651, c'est plus doux que je ne puis le dire. Mais j'ai voulu mettre ça parce que je vais en parler après. Je préfère une comparaison qui vous paraîtrait un peu bizarre entre le grand abîme, c'est pour ça que j'ai mis ça, et l'amour de Jésus. Le grand abîme d'un côté, l'amour de Jésus de l'autre. Pourquoi j'ai pris donc un cantique pour cette méditation de ce matin? J'étais très occupé cette semaine, au point de ne pas avoir l'esprit assez libre pour entendre la voix de Dieu, l'amour de Jésus. J'ai donc remplacé, la voix de Dieu dans mon cœur, je veux dire. Hein. Il m'a fallu un temps de tranquillité pour comprendre la préoccupation de mon cœur à votre sujet, mais ma préoccupation pour moi. Cette préoccupation, je me suis aperçu finalement qu'elle correspond à ces 6 strophes. 1. Je voudrais vous dire à genoux, le principe. 2. Combien l'amour de Jésus est doux, deuxième principe. 3. Plus profond, plus puissant que le grand abîme, ça aussi. C'est un élément, le troisième. 651. Le 4, c'est « Ô vous les blessés du chemin ». On va parler des blessés du chemin, c'est qui? Le 5e, c'est « Venez, car il vous tend la main ». Et le 6e, c'est « Depuis longtemps, il vous attire depuis longtemps ». Alors, je vais essayer d'être rapide. Je voudrais vous dire à genoux, frères et sœurs, la meilleure façon de vous parler actuellement, ce serait d'être à genoux devant vous. Bien sûr, vous qui êtes au fond, vous verrez moins. Mais ce ne serait pas pratique, donc je reste debout. Mais c'est à genoux. Hein. Notre société d'aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je dis à genoux, parce que notre société d'aujourd'hui, elle a tendance à créer spontanément un système de stars. Celui qui est devant, celui qui s'exprime, je m'identifie à lui et quelque part, il me représente. Il doit donc correspondre à ce que j'attends de lui. Il doit aussi être l'exemple que je pourrais imiter. Mais c'est plus moi, c'est lui. Il a une position qui me permet de rester en dehors. C'est pas tout à fait normal, la position de star. Parce qu'il est le modèle, il est supérieur. Ou parce qu'il me permet de m'excuser de ne pas être comme lui. C'est un drôle de système un peu biaisé que celui de la représentation. Et c'est quoi notre modèle? Ben, notre modèle, c'est Jésus, et Jésus nous parle à genoux. J'insiste bien, Dieu lui-même nous parle à genoux. C'est ce que nous allons voir, délibérément. Il a voulu venir dans le monde de manière ordinaire, vous le savez. Il n'a pas voulu se montrer comme une star, comme un guerrier glorieux. Pourtant, le message qu'il avait l'intention de transmettre aux hommes n'était pas banal. Il venait avec la suprême intention de porter nos souffrances, de se charger de nos douleurs et de se laisser blesser pour nos péchés, de nous donner la paix en faisant tomber sur lui le châtiment et de nous guérir entièrement. Il était à genoux. C'est de cette façon-là qu'il a voulu communiquer avec nous, avec toi, avec moi. Le Dieu de l'univers s'est abaissé, le Dieu de l'univers s'est abaissé à genoux devant toi, devant moi, pour nous faire comprendre le message de son cœur. Si Jésus s'est comporté avec l'humilité de quelqu'un qui reste à genoux, spirituellement à genoux, à plus forte raison, il attend de moi que je vous parle à genoux. C'est une exhortation non pas simplement pour ceux qui parlent, mais pour tout chrétien qui témoigne de sa foi dans le monde. Il parle à genoux. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi? Parce que je suis puissant, parce que je suis le Dieu, parce que je... Oui, c'est vrai, mais la seule chose qu'il dit, c'est que je suis doux, parce que je suis doux et humble de cœur. C'est le Dieu de l'univers qui dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est fou, mais c'est comme ça. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On a tendance à penser à un joug doux, c'est-à-dire il y a peut-être un petit peu de molleton sur le joug pour ne pas faire mal à la bête. Mais c'est le principe du joug aussi. Son joug, c'est la douceur. Son système, c'est la douceur. Mon joug est doux, mais mon joug, c'est la douceur. Et mon fardeau léger. Jésus nous propose un joug, celui qui nous donne du repos dans notre tête, dans notre âme, parce que nous sommes tout simplement à genoux. Pour que nous puissions rester sur un pied d'égalité avec notre semblable, qui lui, parfois, s'il ne fait pas attention, aura tendance, par exemple aussi, par respect pour nous, par honneur pour nous, de s'abaisser pour nous, nous mettre en avant. Dieu veut nous dire quelque chose. Il nous le dit à genoux, lui, le Dieu suprême. Donc moi, je vous parle à genoux. Donc toi, quand tu parles à ton semblable, ton collègue, ton enfant, ton père, ta mère, ton patron, ton employé, tu lui parles à genoux. Et parce que tu lui parles à genoux, tu seras dans la même attitude que le grand Dieu de l'univers, qui lui aussi parle à genoux, dans l'humilité, comme Jésus. Lorsque tu parles, en étant à genoux, où que tu sois, rien que par ton style de communication, ce n'est pas un moyen, genre ce qu'on apprend à l'université, dans les séances de communication, non, c'est le style de communication véritable. Tu témoignes d'un comportement d'antistar. Tu témoignes d'un comportement divin. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais il t'a dit qu'il a l'intention de te libérer de la mort et te donner la vie éternelle. Hein, c'est le psaume 53. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Finalement, c'est Dieu qui nous dit, je voudrais vous dire à genoux, quand à chaque fois que vous rencontrez un chrétien ou que vous êtes chrétien et que vous témoignez, quand un chrétien nous dit « je voudrais vous dire à genoux », c'est Dieu qui dit « je voudrais dire à genoux ». Ça, c'était le premier point, si vous voulez. J'encourage tout chrétien à parler de Dieu, comme d'ailleurs ça a été dit dans tous les témoignages, d'une façon douce, à genoux. La façon dont José parle, il a parlé à des gens qui sont âgés, qui sont morts, avec respect, avec cette notion d'être à genoux devant. Et je l'ai senti aussi dans les autres témoignages. On passe au deuxième point. Dire à genoux quoi ? Quelque chose. Combien l'amour de Jésus est doux ? L'amour de Jésus est doux. C'est un amour discret qui ne se remarque que dans la tranquillité, dans le repos et la douceur. J'étais occupé, j'avais un truc à rendre, un dossier. Je n'avais pas l'esprit libre. Il a fallu à un moment donné que je sois dans le repos pour retrouver la douceur du repos, pour retrouver une communion avec Dieu. C'est une des raisons qui pousse Dieu à conseiller le repos au quatrième commandement. Pour que tu puisses évaluer l'amour de Dieu, de Jésus, il te faut le temps de la douceur du repos, qui permet une tranquillité d'esprit et qui permet d'apprécier l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Si tu es dans tes occupations, sans jamais t'arrêter, tu n'entreras jamais dans le repos, tu n'entendras jamais la petite voix de la douceur, de l'amour de Dieu. Le repos, c'est sacré. On n'est pas en Corse, hein ? Non, non. Le repos, c'est sacré, on a compris. C'est pas pour ne rien faire. C'est pour avoir le contact renouvelé avec Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 3, il nous est dit « Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. » C'est Jean qui dit ça, hein, vous avez vu. Et il le dit « Vous voyez quel amour le Père a eu pour nous. » Il le dit avec une sorte d'enthousiasme. C'est un vieux, hein, Jean, quand il parle, quand il écrit, là. Il va bientôt, il est dans la fin de ses jours, hein, il doit être certainement à Éphèse, probablement. Et puis, il s'arrête et il dit, juste après, il dit, « Et nous le sommes. » Et il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il s'arrête et puis il fait, « Bah oui !» Et puis, « Nous le sommes. » D'un air de dire, mais c'est vrai, moi qui je m'aperçois que c'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. » Il le dit, et après, il se rend compte de l'avoir dit, ça lui fait bouillonner son cœur, et il dit, mais oui, c'est vrai, nous le sommes. Au verset 28 du chapitre précédent, il avait dit, petits enfants, gardez-vous de ceci, de cela. Petits enfants, ce sont des enfants de douceur, ce sont des enfants qui sont petits, qui sont dans la douceur, dans la gentillesse des enfants, n'est-ce pas ? Et il considère ses frères et sœurs comme des petits enfants qui doivent rester dans la douceur. Des enfants qui sont dans la douceur parce que l'amour de Jésus est doux, il reflète forcément, naturellement, la douceur de Jésus-Christ. Dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 5, il nous est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Curieux. Le lien qu'il y a entre les deux. Votre douceur doit être connue de tous les hommes. Dieu lui-même est doux, humble de cœur. Les chrétiens sont doux. Ils se laissent écraser. Ils sont doux. Ils continuent à être doux. Tout le temps. D'une façon qui nous paraît même, à moi, comme Daniel l'avait expliqué quelquefois, révoltant, tellement c'est doux. Mais le Seigneur est proche. Il y a les deux aspects. La douceur, c'est pour maintenant. Et à un moment donné, le Seigneur fait les comptes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche aussi dans le sens qu'il est toujours près de toi. Mais il est aussi proche dans le temps pour réclamer la justice totale. Éphésiens chapitre 4 et versets 1 à 3, il nous est dit, je vous encourage à vivre dignement. J'ai un peu repris le texte, vous verrez si vous le lisez là maintenant. Éphésiens 4 versets 1 à 3, je vous encourage à vivre dignement le programme qui vous a été confié en toute humilité et douceur. Patiemment, vous portant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Construisez l'Église, mes enfants, dit l'apôtre Paul. Construisez l'Église, mes enfants. Allez-y, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'Église se construit. C'est pas par des systèmes, des processus. C'est par la douceur de Christ, la passion de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, vous connaissez aussi, il nous est dit « L'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Il nous est dit « L'amour de Christ nous a émus. » Vous savez, quand vous voyez un petit enfant qui donne une petite fleur à sa maman, enfin, je prends un exemple comme ça, parce que vous voyez le petit gars qui arrive comme ça, il a pris une petite fleur de rien du tout, une pâquerette ou je sais pas, et puis il va porter ça à sa maman avec ravissement pour faire un beau cadeau à sa mère, et ça vous étreint le cœur. C'est l'étreinte du cœur que je veux vous faire comprendre. Quand vous voyez deux amoureux qui sont là, qui s'aiment vraiment, pour eux le monde chante, hein, et on les voit, ils s'aiment, et puis ça nous fait plaisir, on a le cœur ému, on a le cœur qui s'étreint. Et ben c'est ça. L'amour de Christ nous étreint, nous avons compris un peu l'amour de Christ pour nous-mêmes, mais aussi l'amour de Christ pour les autres, et puis ça fait la même chose. Oh, c'est extraordinaire cet amour de Jésus pour le monde. Quand nous voyons tout cela, on sent dans notre cœur quelque chose qui étreint, une sorte d'émotion qui nous fait admirer secrètement le paysage que nous avons devant nous. Moi j'admire d'ailleurs le paysage que j'ai devant moi. L'amour de Christ nous étreint, parce que nous avons évalué que si un seul homme est mort pour tous, alors tous sont donc morts. Ils ont bénéficié de l'exécution capitale. Quick ! Et que maintenant, ils vivent. Et ils vivent une vie différente, basée sur l'amour de Dieu, basée sur le type d'amour que Dieu possède. La compassion du Père, la douceur de Christ, la patience du Saint-Esprit. Après avoir vu notre intention de communiquer avec nos semblables dans une position d'humilité, à genoux, pour lui communiquer à son semblable le type d'amour que Dieu a pour tous, je voudrais vous dire à genoux combien l'amour de Jésus est doux. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, chers touristes, plonger dans l'abîme. Vous savez qu'il y a un verset qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous vos transgressions, dit l'Éternel, dans le psaume 103, verset 12. » Donc on passe au troisième point, plus grand que le plus grand abîme. Plus profond que le plus grand abîme, je veux dire. Pourquoi je fais cette comparaison? Parce que d'un côté, nous avons la douceur de l'amour de Jésus, paisible, presque secrète, sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne le voie. Il faut gratter un peu pour voir qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et de l'autre côté, nous avons l'horreur de la méchanceté de ceux qui sont dans l'abîme. Cet abîme-là, c'est celui des démons. C'est celui de Apocalypse, chapitre 9, versets 1 et 2, ou encore du verset 11. Les puissances démoniaques qui, au cours des siècles, ont été emprisonnées petit à petit par l'armée des anges de Dieu. Il y en a une vague description dans la Bible. Dieu n'a pas estimé nécessaire de trop nous en dire à ce sujet, mais nous voyons quand même de temps en temps des trucs. Néanmoins, nous savons que lorsque Jésus envoie ses disciples, hein, 35 équipes de 2 disciples, hein, vous vous souvenez, beaucoup d'anges déchus sont chassés du monde des vivants, de l'époque de Jésus. Nous voyons cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 17. Nous voyons aussi un autre exemple avec le gadarénien. Vous vous souvenez, ce fameux gadarénien qui se baladait tout nu dans la contrée, et dont les démons le possédaient à un point tel qu'ils étaient légions. Et vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, Enfin, c'est pas lui, c'est lui ou pas lui. Enfin, c'était les démons qui s'adressent à Jésus, qui dit « Surtout, ne nous envoie pas dans l'abîme. Hein, » c'est Luc chapitre 8, verset 31. Donc, l'abîme existe. Mais le plus extraordinaire, c'est que Jésus lui-même, il est allé dans l'abîme. Ce Jésus, il est même allé dans cet abîme proclamer sa victoire sur la mort et le péché aux esprits en prison qui étaient emprisonnés du temps de Noé, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Vous vous souvenez? C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et il nous est dit, il est allé rendre compte à ces gens-là, à ces démons malfaisants, qu'il avait, lui, Jésus, par son amour et sa douceur, restauré le plan de Dieu en sauvant les hommes, pour qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, nous est-il dit. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Hein? Mais quand il est dit prêcher, c'est plutôt, il est allé proclamer sa victoire. C'est plutôt ça comme traduction. Proclamer sa victoire aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Son amour doux et humble, la discrétion, la politesse de Dieu envers toi, envers moi. Il attend tranquillement, patiemment. On se demande même si quelquefois il ne s'énerverait pas avec moi, n'est-ce pas? Mais patiemment, il attend. Son amour doux et humble est plus fort que tous les abîmes de ta vie, de ma vie. L'efficacité de sa résurrection est plus puissante que toutes les formes, toutes les forces des abîmes de ta vie, de ma vie. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, il nous est également dit « Que signifie qu'il est monté, Jésus ?» Pourquoi est-il monté? Mais ça veut dire que s'il est monté, il nous est dit, c'est qu'il est aussi d'abord descendu. Hein? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Hein? C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 10. « Que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a délégué les uns et les autres, avec leurs compétences, il leur a délégué la transmission de l'évangile pour la construction d'un édifice mystérieux, une invention extraordinaire, la cité céleste. Alors on va dire, oui, il y en a qui sont spécialistes dans l'Église, c'est marqué. Non. Tous sont spécialistes de quelque chose. Tous. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, etc. Vous connaissez. Hein? Tous spécialistes. Il a donné aux uns et aux autres les compétences pour la transmission de l'évangile. Toi et moi, nous sommes sur un pied d'égalité. Nous sommes tous des facteurs de communication de l'évangile de douceur de notre Dieu. Oui, son amour est plus profond que le plus grand abîme. Et ce moment-là, on pense à quoi? Cet amour, on ne va pas le garder pour soi. Les lépreux qui sont là en train de se nourrir parce que la ville a été entourée par les Syriens, et puis ils se disent, mais on va mourir, alors finalement on va aller dans le camp des ennemis. Ils arrivent dans le camp, il n'y a plus personne. Parce que quelqu'un avait prié pour que la ville soit libérée, et effectivement, elle était libérée. Ils ont dit, mais enfin, on ne peut quand même pas se permettre de jouir comme ça du bonheur d'être libre et de pouvoir vivre des lépreux. Et les lépreux se disent, il faut qu'on retourne à la ville et qu'on donne la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons, nous. Nous sommes des lépreux. Je suis un lépreux. Je suis pécheur. Mais j'ai compris un petit peu, tout petit peu, l'amour de Jésus-Christ, sa douceur, tout ce qu'il a comme projet pour moi, pour toi. Alors, je vais en parler aux autres. Et dans ce cantique, on voit la chose dans ce quatrième point. Ô vous les blessés du chemin, vous les blessés du chemin. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il fut rencontré par des brigands. Je vous raconte pas la suite, vous la savez. Si vous ne savez pas, vous la lirez. Sauf qu'un chef religieux passa par là, et ensuite un prêtre affecté au temple de Jérusalem, qui passait aussi par là. Tous ces gens-là, ce sont des blessés du chemin. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho ressemble bigrement à tous ceux qui se détournent de Dieu pour se tourner avec foi vers la cité la plus solide qui soit, Jéricho, cette cité qui est la seule capable de les sauver de leurs problèmes. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho ressemble aux hommes qui croient à la politique comme moyen de salut. La cité. C'est un blessé du chemin. Il ne connaît pas la bonne solution. Les brigands, eux, ils ont trouvé la solution. Pour s'en sortir, ils dépouillent les autres, quitte même à les tuer. Ces brigands, ce sont aussi des blessés du chemin. Ils ne connaissent pas la bonne solution. Ils se détruisent de l'intérieur et ils détruisent les autres. Le chef religieux qui passe par là, il descend aussi, lui, de Jérusalem à Jéricho. Lui aussi, il ne connaît pas la bonne solution. Il connaît toute la théologie, tous les rituels, toutes les solutions de salut. Mais il ne connaît pas la douceur de l'amour de Jésus. Il a trouvé une solution, devenir religieux. Mais il ne connaît pas la bonne solution. Le prêtre affecté au temple de Jérusalem, et qui passait aussi par là, il ne fut pas ému de compassion. Il n'avait pas envie de se mettre à genoux et de dire aux blessés que l'amour de Jésus est doux. Il voulait se protéger de l'abîme, mais en faisant cela, il ressemblait plus à un démon qu'à un samaritain. Au choix, démon ou samaritain. Ô vous, les blessés du chemin, écoutez, celui qui a compris que l'amour de Jésus est doux prend le temps du repos nécessaire pour apprécier cet amour, il souhaite que tous les blessés du chemin le fassent aussi, prendre du repos et comprendre ainsi. Comprendre ainsi qu'ils sont des blessés du chemin. Si un blessé ne se rend pas compte qu'il est blessé, c'est grave. C'est comme la lèpre. Celui qui est dans la terre, qui est, enfin, pas dans la terre, mais par terre plutôt. Lui aussi, il sait qu'il est blessé, s'il n'est pas évanoui. Ceux qui passent à côté ont l'impression de ne pas être blessés, mais tout leur comportement montre qu'ils le sont en réalité. Autant que l'homme à terre. Est-ce que nous sommes émus de compassion en voyant les blessés du chemin? Le cantique de Boissonnat, c'est un Suisse, hein, ce monsieur qui a composé ce chant, on le sent dans son expression. L'amour de Jésus est tellement extraordinaire. Vous, les blessés du chemin, essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Sommes-nous émus de compassion en voyant les blessés du chemin, les foules qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme dit Jésus dans Marc au chapitre 6 et au verset 34. Venez, car il vous tend la main. Il y a comme une supplique. Oh, je vous en prie, venez, car il vous tend la main. C'est un peu ce que font les chrétiens. J'en connais. Moi, j'ai fait ça aussi, peut-être très mal. Avec mes collègues, j'avais tendance à dire, mais si vous pouviez comprendre, c'est extraordinaire. Si vous saviez, si je me souviens une fois, j'ai dit à un gars, on était ensemble, en open space, il me dit la Bible. Je dis, mais tu l'as jamais lu la Bible. Si tu lis la Bible, vraiment en cherchant, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu vas devenir un vrai chrétien. Oh non, enfin bon, bref, voilà. Venez, car il vous tend la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28. On sent cette supplique chez Jésus qui dit, venez à moi, je ne vais pas vous forcer. Et c'est ça, presque, le hic dans le problème. Ici, je vais vous raconter une anecdote qui, a priori, n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train d'entendre. À la radio, hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a des analystes qui se sont aperçus que les entreprises où les gens étaient le plus épanouis, c'était les TPE, les toutes petites entreprises. Alors, ils se sont posé la question, pourquoi ? Alors, ils ont analysé, ils sont bien moins payés qu'ailleurs, que dans les plus grandes. Deux, ils font en moyenne plus d'heures de travail, 40 heures, en moyenne. Troisième, ils ont plus de stress lié aux prestations qu'ils doivent donner. Alors, ces analystes, ils se posent des questions, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est là qu'ils sont les plus épanouis, les gens. Alors après, ils ont essayé de trouver les raisons. Ils ont trouvé trois raisons. Ils sont en général dans un cercle familial ou un cercle d'amis. Deuxièmement, ils se savent impliqués dans la marche de l'entreprise. Et troisièmement, ils prennent des responsabilités qui les engagent. Et ils sont mieux. Alors, vous comprenez, ces analystes qui, à la radio, ils disent, mais enfin, le bonheur, aujourd'hui, c'est pas ça. Hein, ils disent, mais ils vont carrément dans l'inverse que ce qu'on aurait imaginé. En fait, ils ont une sorte de repos de l'âme. J'irai jusque-là. Ils ont une sorte de repos de l'âme. Bon, c'est pas le meilleur repos de l'âme, bien sûr, mais quand même, il y a quelque chose de ce genre. Ils savent à quelle famille ils appartiennent, ils savent pourquoi ils vivent, et ils ont un objectif. Ça vous rappelle rien, ça ? C'est exactement ce qu'il faut pour les chrétiens, ça. Ils ont une famille. Ils se savent impliquer dans la marche du projet de Dieu. Ils prennent des responsabilités qui les engagent. Jésus, lorsqu'il dit qu'il nous donnera du repos pour nos âmes, il veut tout simplement nous dire que si nous, les blessés du chemin, nous acceptons de venir vers la douceur de l'amour de Jésus, si nous acceptons de prendre son joug de douceur sur nous, et si nous acceptons la vérité qu'il dit sur nous, si nous acceptons la liberté qu'il a payée pour nous, alors nous aurons trouvé un cercle familial sécurisant, une famille spirituelle. Alors nous allons comprendre que nous sommes impliqués dans la marche de la plus grande entreprise de construction qui existe, la construction d'une cité céleste qui a de solides fondements parce qu'elle a un architecte et un constructeur d'une capacité et d'une compétence prodigieuse. Et troisièmement, alors nous pourrons prendre à notre petite mesure des responsabilités qui nous engagent et que Dieu va nous donner sans nous écraser. Parce que vous connaissez les cadres aussi qui sont en burn-out. Dieu ne fait pas ça avec nous. Ça nous donne une raison de vivre, dans la qualité. C'est inégalable. Alors viens, car il te tend la main. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu use de patience envers nous, tout le temps. Tout le temps. Avec moi, avec toi. Et il n'y a pas moins d'amour pour moi. Ça a été dit, Emmanuel, je me souviens, a parlé dans la grâce. L'amour de Dieu, incommensurable. On arrive au sixième point, le dernier. Depuis longtemps, il vous attire. Depuis longtemps, il vous attire. Cette dernière partie est en même temps une preuve de la douceur de Dieu, la longanimité, la longueur, le longtemps. Une preuve de la douceur de Christ. Mais quand vous y réfléchissez, vous vous dites « depuis longtemps », c'est dans la strophe du verset, c'est pas dans la Bible, c'est Boissonna. Vous vous dites « depuis longtemps », ça ressemble un petit peu à papa et maman quand ils disent « ça fait déjà bien longtemps que je t'ai dit de ranger ta chambre ». Ça fait pas menace, mais c'est quand même quelque chose. Ça fait déjà bien longtemps que je t'ai demandé quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Et en même temps, ça peut donc nous laisser dire quand même, et c'est un peu aussi mon message, vous vous en rendez bien compte, être une sorte d'avertissement. Depuis longtemps, il nous attire. Dans le « nous », je mets tout le monde, je mets l'humanité tout entière, pas simplement des privilégiés, les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les shintoïstes, les bahaïs, les sikhs, les animistes, les athées, les sorciers, les homosexuels, Les voleurs, les mafieux, les gangsters, les handicapés mentaux, les handicapés physiques, les évangéliques non chrétiens. Ah, ça existe? Ben oui. Ça arrive. Tous, ils nous attirent. Ils nous attirent tous. Personne n'est exclu de l'invitation de Dieu. Le problème, un gros problème, vous savez ce que c'est? C'est la douceur de Christ. Voilà le problème. C'est que la douceur de Christ veut également dire la politesse de Christ. Si Dieu est poli, respectueux de sa créature, même si sa créature ne le respecte pas lui, il va attendre longtemps, très longtemps. Ce Dieu plein de douceur, fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome, chapitre 7, verset 9. 1000 générations. Certains ont dit, une génération c'est un siècle. Certains ont dit, ben Dieu en fait il fait grâce depuis 100 000 ans. Je pense qu'ils ont raison. Mais ça me paraît bien comme truc. 100 000 ans de miséricorde, ce qui laisserait peut-être présager qu'après 100 000 ans, ce serait fini. Je ne sais pas. Hein, je dis, excusez-moi, ça c'est vraiment des opinions un peu bizarres que je peux vous sortir. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ta vie, as-tu discerné que Dieu te tendait la main? Est-ce qu'on pourrait faire dans sa mémoire un petit comeback, un petit briefing, en disant, là, je me souviens, Dieu m'avait appelé. C'est pas une bouteille de lait qu'on m'a donnée, hein? Ou c'est pas un monsieur qui est venu m'expliquer sur mon lit de mort que c'est bientôt la fin? Mais il y a des moments comme ça où vous avez senti que, probablement, il y avait une main tendue. C'était la main de quelqu'un, mais derrière, ce n'était pas tout à fait le quelqu'un, c'était quelqu'un d'autre derrière ce quelqu'un. Combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ta vie, tu as discerné que Dieu te tendait la main? Dieu patiente, non pas parce qu'il est agacé, du genre, oui, attends, je patiente encore un peu. C'est pas ça, il patiente avec cet amour. Il ne veut qu'aucun périsse et que tous arrivent à la repentance. Non pas pour la repentance en elle-même, parce que Dieu, ce n'est pas tellement la repentance qui l'intéresse, mais pour que l'individu que je suis, les individus que nous sommes, deviennent chacun une brique de la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Veux-tu participer au projet de Dieu? Il est merveilleux. Premièrement, tu trouveras ta famille. Deuxièmement, tu trouveras ta véritable fonction, ta véritable raison de vivre. Et troisièmement, tu t'épanouiras dans la responsabilité qui t'appartient et que Dieu te donnera. Et puis, attention, Dieu ne nous cantonne pas à une responsabilité. Lorsque le bon et fidèle serviteur a fait ce qu'il fallait, on sent que Dieu a d'autres projets pour lui, tant sur la terre que dans les cieux. La Bible est un message inspiré qui te permettra, comme il est dit dans 2 Timothée 3, 17, qui te permettra d'être accompli, complet et compétent. Ce n'est pas dit comme ça, vous n'avez qu'à le relire. 2 Timothée 3, 17, c'est un homme à la fin de sa vie qui donne un héritage spirituel à son fils spirituel, qui lui dit, n'oublie pas, quand tu étais petit, ta grand-mère, Loïs, elle te faisait la lecture de la Torah, la lecture de la Bible. Tu te souviens des histoires qu'elle te disait? Et puis, ta maman Eunice qui s'est mariée avec un grec, hein, et là que vous étiez à Derbe, hein, en Cilicie, non, en Pamphylie, eh bien, elle te parlait aussi de Dieu. N'oublie pas ces paroles-là. Mais, tu sais une chose, c'est que tous ces textes qui t'ont donné te permettront d'être accompli, complet, compétent, propre à toute bonne œuvre. Ne cherche pas des nouvelles choses. La parole de Dieu a déjà été donnée. Il te suffit d'y puiser et les choses vont te venir à la tête tranquillement. je voudrais vous dire à genoux combien l'amour de Jésus est doux, plus puissant que le profond abîme, plus puissant que tout. Toi, le blessé du chemin, viens, car il te tend la main. Depuis longtemps, il s'est mis à t'attirer. Depuis longtemps, il t'attire. Nous terminerons par la prière, mes frères et sœurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que ce qui est extraordinaire chez toi, le Dieu du ciel, c'est cet amour doux, patient, poli, qui attend et qui attend. Qui attend d'une manière que nous ne supportons plus, tellement c'est fort. Nous voulons te remercier de ce que tu attends que d'autres soient encore attirés par ton amour et non pas par des situations, des manifestations extraordinaires, mais par ton amour doux, ton amour, ta douceur d'amour qui montre que tu as aimé toute créature, toutes les créatures de la terre, que tu as aimé les hommes au point de venir mourir pour moi, pour toi, pour tous ceux qui entendent. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Nous avons aussi, Seigneur, dans notre cœur de l'étreinte parce que nous aimons nos frères et sœurs. Nous pensons à Asia Bibi. Tu vois, Seigneur, cette situation terrible, être condamné à mort parce qu'on croit en toi. Seigneur, nous voulons te remettre aussi tous ceux qui souffrent actuellement et qui retrouvent peut-être le chemin de la foi chez certains chrétiens traditionnalistes et qui, à cause de ces souffrances qu'ils endurent et qui sont terribles, se remettent vers toi. Seigneur, nous te supplions de les libérer de ces souffrances. Nous souffrons avec eux. Seigneur, nous pensons aussi à Antoine Gilardi. Nous pensons aussi à ces personnes âgées sur la faim qui risquent de ne pas entendre parler de la douceur de l'amour de Jésus et qui peuvent partir dans le monde, l'autre, sans t'avoir connu. Seigneur, nous te supplions que tu fasses quelque chose. Nous te supplions pour les djihadistes. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler à eux comme tu t'es révélé à l'apôtre Paul. Seigneur, nous voulons te remettre aussi Lancroft et leurs problèmes. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu bénisses Devine, tu bénisses toute cette famille, le fils aussi. Nous voulons te demander que tu nous libères aussi de toutes ces entraves que nous ne comprenons pas, Seigneur. Nous savons que tu as un dessein, un projet pour chacun. Mais Seigneur, nous voulons t'exposer notre situation. Nous voulons, Seigneur, que cet amour que nous avons pour nos frères et sœurs, tu puisses, Seigneur, en tenir compte. Et nous savons que tu le fais, mais nous te supplions que tu fasses des choses, Seigneur, pour cela. Seigneur, nous te demandons que tu nous bénisses pendant cette semaine, que tu permettes que nous puissions être à genoux lorsque nous témoignons de toi, que nous soyons à cette situation de disposition spirituelle qui nous permet de conquérir des cœurs et d'amener beaucoup de gens à Christ. Nous te remercions, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen.